ces jours viennent à leur fin et on va tous un peu regagner notre vie normale, plus ou moins, demain. Et on va nous demander, où est-ce que vous avez été? Oh, au Jura. Ah, il a fait beau temps, n'est-ce pas? Vous avez fait des promenades? Quoi? Un séminaire? Quel genre de séminaire? Quoi? Vous avez parlé du berger et des brebis? Ah, vous voulez commencer à élever des brebis? Non? Mais quoi? Pendant ces belles heures, vous étiez tant, pendant ce beau temps, vous étiez tant d'heures enfermés dans une salle pour écouter des choses concernant le berger et des brebis. Pourquoi? Comment ça se fait? Eh oui. Et pourtant, je crois qu'on peut tous dire qu'on a été touchés parce que le Seigneur nous a présenté ces moments. Et en effet, le Seigneur est encore rejeté, n'est-ce pas? Quand on s'occupe de ses intérêts, de sa personne, eh bien, l'homme naturel n'y trouve rien d'attrayant. Nous avons aujourd'hui comme titre le grand pasteur des brebis. Et j'ai trouvé une liste de 10 nuances du titre du Seigneur Jésus comme berger. Et nous pourrions commencer en Genèse 49, verset 25. Nous avons déjà lu ce verset une fois. Et ce titre est simplement « De là est le berger, la pierre d'Israël, du Tout-Puissant et ton Père, il t'aidera, et du Tout-Puissant, il te bénira. » La première nuance, il est le berger. Celui qui aide comme le véritable Joseph, n'est-ce pas, comme nous voyons dans le contexte. En effet, il est celui qui a aidé ses frères, les Israélites, mais pour nous encore, il est le berger. En Ézéchiel 34, verset 23, ce chapitre que nous avons souvent eu devant nos yeux, nous avons l'expression « Et je susciterai sur eux un pasteur qui les paîtra, mon serviteur David. » Et un, dans notre note, c'est un seul. Et oui, un seul pasteur qui paîtra les brebis en contraste avec toutes les multitudes de pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas le véritable David, le seul un pasteur? Troisièmement, en Zacharie, chapitre 13, verset 7, « Épée, réveille-toi contre mon berger, contre l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. » Et oui, Dieu dit, c'est mon berger. Celui qui est venu sur cette terre était le compagnon de Dieu. Quatrième, c'est psaume 23, nous l'avons aussi lu, et on peut le dire par cœur, celui-là, l'Éternel est mon berger. C'est encore mon berger, mais ce n'est pas Dieu qui parle, mais c'est l'homme qui parle. Et c'est la nécessité d'une brebis, n'est-ce pas, de le connaître, lui, comme mon berger. Après, en psaume 80, verset 1, nous avons encore une autre nuance. Psaume 80, verset 1, « Berger d'Israël, prête l'oreille, toi qui mènes Joseph comme un troupeau, toi qui es assis entre les chérubins, fais luire ta splendeur. » Et là, il semble que c'est le peuple d'Israël qui appelle leur berger l'aide d'en haut pour les secourir. En effet, l'Éternel était le berger d'Israël et ils ont bien ressenti souvent la nécessité de l'avoir, lui, pour les protéger, pour les mener. Alors nous allons dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 10. Et là, le Seigneur Jésus commence par dire, verset 2, « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Oui, c'est le berger des brebis. C'est celui, comme nous l'avons entendu, qui entre par la porte, auquel la porte y ouvre, c'est celui qui a le droit sur son troupeau, en contraste avec les larrons et les voleurs. Septièmement, dans le même chapitre, versets 11 et 14, Moi, je suis le bon berger. Le bon berger met sa vie pour ses brebis. Verset 14 encore. Moi, je suis le bon berger. Je connais les miens et je suis connu des miens. Oui, n'est-il pas le bon berger? Et il est tellement bon qu'il a mis sa vie pour nous, son troupeau. Sa qualité exceptionnelle d'un berger qui va jusqu'à la fin. Et après, nous avons en Hébreux 13, verset 20, « Or le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis. » Oui, il est aussi le grand pasteur des brebis. Pourquoi? Parce qu'il a été ramené d'entre les morts. Parce qu'il est mort pour ses brebis, eh bien, il n'a pas pu rester dans la tombe, n'est-ce pas? Il est ressuscité. Et comme le ressuscité, il est en effet le grand pasteur des brebis. Et neuvièmement, en 1 Pierre chapitre 2, verset 25, « Car vous étiez errants comme des brebis, mais maintenant vous êtes retournés aux bergers et aux surveillants de vos âmes. » C'est lui notre secours actuel, maintenant, comme nous allons le voir encore tout à l'heure. Et finalement, dans la même épître, chapitre 5, verset 4, « Et quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne inflétrissable de gloire. » Le souverain pasteur, le pasteur glorieux, le pasteur qui se révélera bientôt, officiellement, tout d'abord aux siens et alors au monde. C'est juste 10 nuances du titre du Seigneur Jésus comme berger. Et cela, en soi, nous montre que c'est un titre, une fonction importante que le Seigneur a, n'est-ce pas, comme berger. Eh bien, nous n'avons pas perdu notre temps en le contemplant pendant ces jours, n'est-ce pas? Notre schéma nous montre qu'il y a trois parties. Nous avons d'abord la mort du berger, après la résurrection du grand pasteur, et après le berger dans la gloire. Et en effet, nous avons lu tellement de versets, nous avons entendu tellement de choses sur le berger. Eh bien, cet après-midi, nous allons voir qu'il y a ces trois aspects de temps. La mort du berger nous parle du fait que le Seigneur Jésus est mort et c'est l'aspect du passé, n'est-ce pas? Nous regardons en arrière et nous nous rappelons que le Seigneur Jésus a été le berger qui a mis sa mort. J'aimerais un peu relire les références que nous avons ici. La première n'est pas sur notre schéma. Nous nous rappelons en Jean chapitre 1, verset 14, la parole devint chair. Le Seigneur Jésus qui nous avait créés et qui a eu ce contact exceptionnel avec Adam et Ève dans le paradis, pendant un certain temps, hélas, le serpent est entré et il y a eu rupture de communication et de communion. Et pendant 4000 ans, il aura attendu pour pouvoir rétablir cette communion, cette communication. Et alors lui, le Créateur, il est venu, il est devenu, la parole devint chair. Jean 1 encore, verset 11, « Il vint chez soi. » Eh bien, il est venu chez son propre peuple. Et ils auraient dû le reconnaître, n'est-ce pas? Particulièrement Matthieu, nous avons tous ces détails qui montrent qu'il a bien été celui dont nous lisons dans l'Ancien Testament. Il vint chez soi, mais sa famille, son peuple, hélas, ne l'a pas reconnu. Troisième référence, comme nous l'avons lu en Jean chapitre 10, verset 11, « Je suis le bon berger. » Maintenant, il se présente lui-même à son peuple. Mais il a bien su, n'est-ce pas, qu'il y aura aussi ce verset en Daniel 9, verset 26, que nous avons en tête dans notre schéma, « Le Messie sera retranché et n'aura rien. » Daniel, déjà, quand il avait cette vision, des 70 semaines, eh bien, il y a eu ce moment où le Messie viendrait, mais il serait retranché. Et voilà, le Seigneur a bien su qu'il serait retranché et qu'il n'aurait rien. Après la troisième référence, Zacharie 13, verset 7, « Épée, réveille-toi contre mon berger. » Eh bien, non pas seulement le Messie serait retranché par son propre peuple, mais il serait frappé par son ami le plus grand, n'est-ce pas? Par son propre père. « Épée, réveille-toi contre mon berger, » dit l'Éternel. Et juste en dessous, nous avons « Frappe le berger ». Qu'est-ce que ça a été pour le Seigneur Jésus de savoir tout cela et quand même de venir et de passer sa vie en cherchant à montrer cet amour de Dieu et son propre amour envers ce peuple d'Israël? Et alors, encore Jean chapitre 10, versets 17 à 18, comme nous l'avons un peu plus bas, « Je laisse ma vie pour les brebis, je la laisse de moi-même. » Si d'un côté, son peuple l'a retranché, si d'autre côté, l'épée de l'Éternel se réveillerait contre lui, le berger, le Seigneur Jésus était prêt, pour des brebis, de laisser sa propre vie. Et prochaine référence, cela n'a pas été sans deuil profond, n'est-ce pas? Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Matthieu 26, verset 38. Et là, on pourrait lire toute une série de psaumes, psaume 42, psaume 69, psaume 88, psaume 102, n'est-ce pas? Et même en Ésaïe 53, en Jonas chapitre 2, en Lamentations chapitre 3, des références qui nous montrent la grande tristesse et la grande angoisse d'âme par laquelle le Seigneur Jésus a passé. Quoiqu'il savait qu'il laisserait sa vie pour les brebis. Mais qu'est-ce que ça a été pour lui quand le moment est venu qu'il devait vraiment passer par ses profondeurs? Et alors, la seconde référence que nous avons sur notre schéma, « Tu m'as mis dans la poussière de la mort ». Oui, Dieu a mis son bien-aimé dans la poussière de la mort. Et dernière référence, « Obéissant jusqu'à la mort ». Philippiens 2, verset 8. Et la mort, comme nous l'avons dit, était le seul moyen de nous sauver, nous, les brebis. Obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Et voici cette croix qui est présentée devant nous comme la fin de la vie du bon berger. La croix qui est encore toujours une folie, n'est-ce pas, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais cette croix qui, comme nous lisons en 1 Corinthiens chapitre 1, qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Oh, que nous ne nous habituons jamais à cela. Nous pourrons nous demander quelle est notre réponse, quelle est notre réaction quand nous pensons à cet aspect passé du Seigneur Jésus. Et nous lisons dans Lamentations de Jérémie chapitre 1, verset 12. Est-ce rien pour vous tous qui passez par le chemin, contemplez et voyez s'il est une douleur comme ma douleur qui m'est survenue à moi, que l'Éternel a affligé au jour de l'ardeur de sa colère. D'en haut, il a envoyé dans mes os un feu qui les a maîtrisés. Il a tendu un filet pour mes pieds. Il m'a fait retourner en arrière. Il m'a mis dans la désolation, dans la longueur, tout le jour. Et oui, que nous ne soyons pas comme ceux qui disent, oui, nous savons, le Seigneur est mort pour nous. Et voilà, c'est un fait. Et passons à quelque chose d'autre. Que nous revenions toujours de nouveau au fait que le bon berger était prêt de mettre sa vie pour nous, des brebis. Et que cela nous touche toujours nouveau, comme sans doute cela nous a touché dans les différents locaux où nous avons rompu le pain ce matin. Et voilà cet aspect passé. On pourrait dire que le psaume clé pour cet aspect passé, c'est le psaume 22, que nous connaissons bien et que nous relisons toujours nouveau en étant bien frappés de la profondeur de ces expressions. L'emblème, on pourrait dire, de cet aspect du passé, c'est la croix, comme nous l'avons dit. Et son exclamation en ce qui concerne ce qu'il a accompli, n'est-ce pas, c'est ce cri de victoire, c'est accompli. Et notre réponse, c'est la foi, que nous croyons que le Seigneur Jésus a fait tout cela pour moi personnellement. Et quand nous réalisons cela par la foi, eh bien cela nous touchera profondément chaque fois. Nous passons à la résurrection du grand pasteur, Hébreux chapitre 13, verset 20. Nous pouvons lire cette référence encore une fois. Le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, dans la puissance du sang de l'Alliance éternelle, notre Seigneur Jésus vous rend accompli en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, faisant en vous ce qui est agréable devant lui par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et oui, comme nous l'avons lu, c'est le grand pasteur parce qu'il a été ressuscité. Et il est ressuscité, il est vivant. Et comme celui qui est ressuscité, il reste toujours notre berger ou notre pasteur. Et c'est son service présent pour nous, les chrétiens. La première référence, psaume 21, verset 4, « Il t'a demandé la vie, tu la lui as donnée. » Et oui, le Seigneur Jésus est bien mort pour nous, mais il voulait après jouir de nous dans la vie nouvelle, n'est-ce pas? Et ainsi, il t'a demandé la vie et tu la lui as donnée. Et encore le verset, tu ne m'abandonneras pas et tu ne permettras pas, comme nous le lisons au psaume chapitre 16, Dieu n'a pas permis que son élu voie la corruption. Non, c'était pas possible que le bon berger reste dans la tombe. Et dans ce même psaume 16, nous avons encore d'autres versets que nous avons devant nous là. Verset 11, tu me feras connaître le chemin de la vie. Ta face est un rassasiement de joie. Il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. Oui, c'est ce que le Seigneur Jésus dit en vue de la résurrection. Oui, le Seigneur Jésus est ressuscité. Il a bien été dans la mort. Nous nous rappelons de Jonas en Matthieu 12, verset 40. Et aussi une autre illustration d'un qui a passé par les profondeurs, ce serait Joseph, n'est-ce pas, qui a été dans la prison bien des années, et tout à coup, un jour, le Pharaon l'a appelé. Le matin de cette même journée, il s'était levé comme quelqu'un qui travaille dans la prison comme tous les autres jours. Et le soir de ce même jour, il dormait dans un palais comme le second après le Pharaon. Quelle résurrection! Quel changement, n'est-ce pas? Eh oui, le Seigneur Jésus n'a pas pu rester dans la tombe. Et sa résurrection, quelle fête merveilleuse cela c'est. Et à cause de cela, il est aussi nommé le premier-né d'entre les morts, comme nous l'avons ici en Colossiens 1, verset 18. Il est le début d'une tout à fait nouvelle classe, n'est-ce pas? Le premier-né d'entre les morts. Et parce que lui vit, nous savons, nous vivons aussi. En Romains chapitre 8, verset 34, nous pourrions encore lire, c'est Dieu qui justifie, qui est celui qui condamne, c'est Christ qui est mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous. Et c'est ce que nous avons eu ce matin dans notre lecture, n'est-ce pas? Quel grand personnage! Christ Jésus, il a été mort, parce que le gage du péché, c'est la mort. Eh bien, il est mort, mais il est ressuscité. Et maintenant, à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et c'est bien son service présent, n'est-ce pas, d'intercéder pour nous. Et Hébreux chapitre 7, verset 25, est la dernière référence que nous avons sur notre schéma. Nous pourrions lire ce verset aussi. De là vient aussi qu'il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Quel privilège pour nous de savoir que, d'une part, nous l'avons dit, le Seigneur Jésus a mis sa vie pour nous, mais qu'il est maintenant vivant dans la présence de Dieu, qu'il intercède pour nous. Lui qui a connu tout ce qui concerne la vie sur cette terre, lui qui a pu dire en Matthieu chapitre 28, n'est-ce pas, toute autorité m'est donnée dans les cieux et dans la terre. Lui, l'homme ressuscité, il est toujours vivant pour intercéder pour nous. Et quelle ressource de joie cela est pour nous aujourd'hui. Il n'a pas seulement, une fois pour toutes, fait tout ce qui était nécessaire pour nous sauver, mais maintenant, n'est-ce pas, il est vivant pour intercéder. Et nous voyons Moïse sur la montagne qui a ses deux bras élevés. Et tant qu'il avait ses bras élevés, eh bien, il y avait victoire pour le peuple là dans la vallée. Et le Seigneur Jésus, il ne laisse jamais tomber ses bras, n'est-ce pas, en priant pour nous. Son service d'intercession actuel est un service qui ne tarira pas jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Et finalement, nous pourrons dire que le psaume clé dans cette section de présente du service du grand pasteur, c'est bien le psaume 23. Nous le connaissons, nous l'avons lu, n'est-ce pas? Eh bien, parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et oui, que nous puissions nous soumettre sous le joug de ce berger. Comme il a dit cela en Matthieu chapitre 11, verset 29, parce que nous ne pouvons pas être complètement libres, n'est-ce pas? L'homme pense qu'il peut être complètement libre, mais il n'y a pas une telle situation. Ou bien nous sommes sous le joug de Satan, ou alors nous répondons à ce que le Seigneur Jésus a dit, Matthieu 11, verset 29, n'est-ce pas? Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Alors on dirait que le psaume clé de cet aspect présent du grand pasteur, c'est le psaume 23. L'emblème, ce serait la houlette du bon berger par laquelle il nous dirige et garde présentement. Et son exclamation, nous l'avons déjà lu en Jean chapitre 21, c'est « Toi, suis-moi ». Et tant que nous suivons comme la brebis, le bon berger de près, présentement, nous serons dans la sécurité. Et ma réponse, qu'est-ce que ça devrait être? Eh bien, une réponse d'amour envers celui qui m'a tant aimé une fois pour toutes, mais qui m'aime toujours. Troisième section, c'est le berger dans la gloire. C'est l'aspect futur. Nous relirons 1 Pierre chapitre 5, verset 4, car cela nous montre clairement ce que le Seigneur veut placer devant nous dans cet aspect. Et quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne inflétrissable de gloire. Il va encore se présenter comme pasteur, comme berger, mais ce sera justement le souverain pasteur et il aura quelque chose à nous présenter. Qu'est-ce que ce sera? Cette couronne inflétrissable de gloire. Pourquoi? Si nous avons été fidèles sur cette terre. Et nous avons tous un service sur cette terre. Et le Seigneur qui nous a donné ce service, il saura aussi nous donner la récompense pour ce service. Et en ce qui concerne cette récompense, nous pensons aux paroles qui sont dites en Luc 19 à celui qui avait bien travaillé avec sa mine. Et c'est très intéressant, verset 17, de voir, et il lui dit, « Bien, bon esclave, parce que tu as été fidèle en ce qui est très peu de choses et autorité sur divine. » Être fidèle en ce qui est très peu de choses, c'est cela le service que le Seigneur demande de nous. Pas les grandes choses que nous nous imaginons, « Ah, si on était là, ou si on serait cela, on pourrait faire un grand service pour le Seigneur. » Non, ce n'est pas la grandeur du service. Mais c'est d'être tout simplement fidèle là où le Seigneur nous a placés, même en ce qui, humainement parlant, est très peu de choses. Et cela nous rappelle aussi l'illustration du tribunal de Christ en 1 Corinthiens 3, verset 14. Il recevra une récompense Et cette récompense, ce sera pour que nous ayons travaillé ou bâti avec de l'or et l'argent et des pierres précieuses. C'est des matériaux qui sont très précieux, mais qui sont très petits. Si je vais en ville et j'achète pour 1 000 francs d'or, eh bien, je peux emmener cet or dans mon sac et personne verra ce que j'ai acheté. Mais si je vais acheter du foin pour 1 000 francs, il faudra un camion pour amener cela, n'est-ce pas? Tout le monde verra, ah, regarde voir, il a fait un grand achat. Et c'est un peu cet aspect, n'est-ce pas? Quelque chose qui a de l'allure devant les hommes, ce n'est pas cela que nous devrions chercher. Mais c'est le service que le Seigneur nous a placé devant chacun de nous. Et naturellement, l'or, l'argent, les pierres précieuses résistent au feu. Et elles nous seront redonnées comme récompense. Et nous lisons aussi en 2 Thessaloniciens, parce que le Seigneur non pas seulement veut nous donner des récompenses, mais il veut aussi que le monde voit le plaisir qu'il a trouvé en nous. 2 Thessaloniciens 1, verset 4b, c'est écrit à des Thessaloniciens qui étaient dans de grandes tribulations. Au sujet de votre patience et de votre foi dans toutes vos persécutions et dans les tribulations que vous supportez, lesquelles sont une démonstration du juste jugement de Dieu pour que vous soyez estimés dignes du royaume de Dieu pour lequel aussi vous souffrez. Si du moins c'est une chose juste devant Dieu que de rendre la tribulation à ceux qui vous font subir la tribulation et que de vous donner à vous qui subissez la tribulation du repos avec nous. Dans la révélation du Seigneur Jésus du ciel, avec les anges de sa patience, en flammes de feu, exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, lesquels subiront le châtiment d'une destruction éternelle de devant la présence du Seigneur et de devant la gloire de sa force quand il viendra pour être, dans ce jour-là, glorifié dans ses saints. Et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage envers vous a été cru. Eh bien, je crois qu'il y a aussi cet aspect, n'est-ce pas? Le berger, dans la gloire, il va nous recevoir, il va nous donner une récompense, mais il va être officiellement établi, il va être reconnu, il va venir d'une manière officielle, et les gens vont voir ceux qui l'ont rejeté, ils vont voir sa gloire, mais ils vont aussi admirer nous admirer parce que nous serons la gloire du Seigneur Jésus. N'est-ce pas aussi un aspect futur qui est très important, que nous nous rappelions qu'il y aura une manifestation publique de la gloire du Seigneur Jésus. Et nous nous rappelons aussi de Matthieu chapitre 25, quand nous l'avons déjà cité ces jours, quand le Seigneur roi viendra dans sa gloire, et alors il séparera les brebis des chèvres. Ce sera encore un acte du berger, si on peut dire, dans le futur. Et nous savons que les brebis, ce seront tous ceux qui auront accepté l'évangile du royaume, et c'est eux qui entreront dans le millénium. Et comme dernière référence sous cette section, j'aimerais encore tourner à Ésaïe chapitre 40, verset 10, parce que cela aussi nous montre un peu cet aspect futur. Voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel viendra avec puissance et son bras dominera pour lui. Voici son salaire est avec lui et sa récompense devant lui. C'est ce que nous venons de dire, n'est-ce pas? Et alors là, c'est touchant. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Par son bras, il rassemblera les agneaux et les portera dans son sein. Il conduira doucement celles qui allaitent. N'est-ce pas cela? Une image du Seigneur Jésus qui viendra, n'est-ce pas, lui le Tout-Puissant, notre Dieu, et il viendra, son bras dominera pour lui, mais en même temps il montrera son caractère de berger envers son peuple d'Israël. N'est-ce pas merveilleux de voir que tout cela est encore futur, et nous en jouirons aussi. Naturellement, les autres références que nous avons, cela parle plutôt du ciel, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus est vu comme l'agneau, et aussi dans le millénium, mais je laisserai ça à quelqu'un d'autre. Et alors j'aimerais, pour finir, pour conclure cette dernière partie aussi, montrer qu'il y a un psaume clé, et que ce serait le psaume 24, où nous voyons le Seigneur Jésus qui est glorifié, et il y a un emblème aussi de l'aspect futur du grand berger dans la gloire, et ce serait la couronne, et son exclamation, encore trois mots, « Je viens bientôt ». Et notre réponse serait cette espérance vivante, n'est-ce pas, que nous avons encore quelque chose qui va venir. Eh bien, nous voyons là l'aspect du passé, le psaume clé, psaume 22, l'emblème, la croix, le Seigneur Jésus qui a crié, c'est accompli, et notre réponse, la foi. En ce qui concerne le temps présent, nous avons le psaume 23, n'est-ce pas, qui est un grand encouragement pour nous présentement. Et nous avons comme emblème cette houlette et l'exclamation du Seigneur Jésus, « Toi, suis-moi !» Et notre réponse, c'est l'amour. Et alors, pour l'avenir, le psaume 24, avec l'emblème de la couronne, et le Seigneur qui dit « Je viens bientôt !» Et notre réponse, c'est cette espérance vivante. Et voilà, nous arrivons à la fin. Et j'aimerais juste dire en conclusion que je vous ai admiré, frères et sœurs. Vous avez été des brebis bien patients dans cette retraite. Quelques-uns ont dit était un peu stressé, mais vous avez vraiment montré d'une manière très pratique que vous êtes des brebis qui savent aller là où les sous-bergers vous disent d'aller, n'est-ce pas? Nous pouvons aussi dire sans doute que nous avons tous le désir, en retournant chez nous, d'être des bergers ou des bergères qualifiées, comme nous l'avons dit, mais aussi d'être des agneaux dociles sous lui, le bon berger. Et peut-être qu'il y en a qui pensent qu'elles sont trop fragiles, mais en Ézéchiel 34, nous avons vu que le Seigneur prend garde et il s'occupe particulièrement de celles qui sont humainement parlant chétives, n'est-ce pas? Eh bien, le Seigneur s'occupe particulièrement de vous, chers frères, chères sœurs, si vous trouvez que vous êtes faibles. Eh bien, que nous appuyons ce que nous avons entendu sur ce fait que le Seigneur Jésus nous aime et qu'il y a un aspect passé, un aspect présent, un aspect futur. Et cela nous donnera une stabilité pour aussi vivre d'une façon qui plaît au Seigneur Jésus, en contraste à celles qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, celles qui seraient errantes, qui seraient perdues, que nous aimerions aussi atteindre. Et en contraste avec la balle, psaume 1, verset 4, ceux qui n'écoutent pas le Seigneur, n'est-ce pas? Ils sont comme la balle qui est envolée. Quel contraste entre nous, qui sommes des brebis bien-aimés du bon berger, et la balle qui est soufflée et qui n'est pas retrouvée. Que le Seigneur nous aide, pas seulement avoir entendu toutes ces choses, mais pouvoir répondre à ce que le Seigneur aimerait que nous fassions à sa gloire.
Ce cantique, la première fois que nous l'avons entendu, début des années 20, un frère de Hollande était chez nous, c'est une réunion d'évangélisation. Quel bonheur de te connaître! Et ça avait été l'étincelle, si l'on peut dire, qui a allumé le feu chez mon frère et chez son ami ce soir-là. Quel bonheur de te connaître! On a rappelé l'expression mise dans la bouche du Sauveur, « Tu m'as mis dans la poussière de la mort ». Bien sûr, extérieurement à la croix, c'était la poussière et le sang. Mais tu m'as mis dans la poussière de la mort, tandis que pour l'homme, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Non pas tu retourneras à la poussière, non, tu m'as fait retourner à la poussière. Non, il n'était pas venu de la poussière, il était venu du ciel, conçu de l'Esprit-Saint. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et enfin, nous savons qu'il était véritablement Dieu, véritablement homme. Il a été mis dans la poussière de la mort, mais il n'y est pas retourné. La précision de la parole.
On est appelé le grand pasteur des brebis. Il y a beaucoup de pasteurs, mais lui, il est appelé le grand pasteur des brebis dans notre verset d'Hébreu 13. On n'est pas surpris que ce soit dans l'épître aux Hébreux que ce superlatif soit utilisé. Nous rappelons rapidement que toute cette épître nous présente le Seigneur comme étant le plus grand. Au chapitre premier n'est-il pas plus grand que les anges? Au deuxième chapitre plus grand que tout l'univers? Au troisième plus grand que Moïse? Au quatrième plus grand que Josué? Au cinquième plus grand qu'Aaron, souverain sacrificateur? Et à la fin du chapitre précédent, il est appelé le grand souverain sacrificateur. Il est le seul à porter ce titre. Au chapitre sixième, il peut apporter la plus grande promesse, puisqu'il n'y avait personne de plus grand par qui jurer, verset 13e. Au chapitre 7, le plus grand des sacrificateurs, plus grand que Melchisédek. Au chapitre 8e, c'est la plus grande alliance, la meilleure alliance, celle qui établit sur les meilleures promesses. Au chapitre 9e, il établit le plus grand tabernacle, celui qui n'est pas fait de main, mais avec son propre sang. Au chapitre 10e, il est la plus grande offrande, celui qui s'offre lui-même, parce qu'il était écrit de lui dans le rouleau du livre, celle qui pouvait rendre parfait à perpétuité. Et ensuite, au chapitre 11, nous avons des exemples de foi. Mais au chapitre 12, c'est l'exemple suprême, la plus grande foi, celui qui est le chef, le consommateur de la foi. Et dans notre chapitre 13e, il est le grand pasteur des brebis. Nous voulons encore relever une expression de l'épître à Tite. Au chapitre 2e, au verset 13, il est question de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il y a des dieux qui ont été appelés grands. Grande était la Diane des Éphésiens, mais un grand Dieu qui soit aussi le Sauveur, il n'y en a qu'un, c'est Jésus-Christ.
Il nous semble aussi entendre le mot de l'ange à Marie en Luc 1, au verset 32. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Il sera grand. Et nous ne sommes pas étonnés que dans ces premiers chapitres de Luc, il soit déjà question de 7 cantiques successifs. Celui qui sera vu petit enfant, dans la crèche à Bethléem, c'est celui qui est grand. Et dans le chapitre 7 de Luc, lors de la résurrection du fils de la veuve de Naïn, la foule doit s'exprimer et dire « Un grand prophète est là. Un grand prophète est là. Ce n'est pas comme grand prophète qu'il sauvera un pécheur tel que moi, bien entendu. » Mais la foule émue tout de même, un grand prophète. Et là, c'est Luc 7, verset 16. Et notre frère vient de rappeler Tite 2, 13, ces versets qui sont introduits par cette visite du ciel à la terre, la grâce de Dieu qui nous a visités, qui enseigne. Il semble que là, les trois personnes de la déité sont comprises. Grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ce mot grand, bien-aimé, doit rester sur nos cœurs et dans nos esprits. Que ce soit le petit enfant à Bethléem, que ce soit celui dont on se moque dans le chemin de cette crèche à la croix, que ce soit celui devant lequel on passe en tournant la tête, il est grand. Il sera grand, qu'il soit grand pour nos cœurs.
Grand particulièrement, comme on l'a dit, parce qu'il est ressuscité. Et il est ressuscité, il est vivant, il est notre berger, notre pasteur. Et j'aimerais simplement qu'on relise ensemble Romains 1, verset 4. Né de la semence de David, selon la chair, déterminé fils de Dieu en puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection des morts. Et ce qui me frappait quand on parlait maintenant, c'est l'importance qu'avait cette grandeur du Seigneur comme le ressuscité. Dans les actes, au début des actes, le message, c'est celui que vous avez crucifié, il est ressuscité. Il y a ce verset de la Bible qui dit aussi à la fin de l'Évangile, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Il est ressuscité. Et on peut voir dans les actes, par exemple au chapitre 4, au verset 10, Jésus-Christ le Nazaréen que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. C'est un message de victoire, la victoire de notre Seigneur, le grand pasteur qui est maintenant au ciel et à qui on peut dire, quand on est dans la souffrance, comme on disait, on vit aujourd'hui, il est ressuscité, il est au ciel, on pense au psaume 23, tu es avec moi. C'est le ressuscité qui est avec nous.
Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour un troupeau et pour un berger? Jacob, parlant à Laban, nous le savons, dit qu'il reconnaît qu'il y a eu quelques bêtes, quelques moutons, quelques brebis de son troupeau qui ont été déchirées. Il a fallu qu'il les remplace. David, un grand berger aussi, a connu les ennemis du troupeau. Qui peuvent devenir les ennemis du berger? C'était le lion et c'était l'ours. Et notre Seigneur, comme berger, a dû lui aussi connaître tout cela. On l'a rappelé plusieurs fois, le lion, lion rugissant, c'est plutôt l'image de Satan lui-même à travers la parole. L'ours qui a une allure pacifique est celui qui, quelquefois, va étouffer avec ses grosses pattes. C'est une image plutôt du monde. Il y a aussi le loup. Le loup sort du bois quand il est affamé. Il a faim, en fait un loup ravisseur qui vient ravir les brebis. Et nous entendons la voix de celui qui, dans le psaume 22 dont on en parlait, peut dire « Délivre-moi de la gueule du lion ». Dans l'heure de sa souffrance et de la mort, il sentait qu'il était comme là, un berger dans la gueule du lion. Il pensait à lui, il pensait au troupeau, « Sauve-moi de la gueule du lion ». Nous avons aussi des expressions dans les Lamentations de Jérémie, nous la connaissons bien. « Il a été pour moi un ours aux embûches, un lion dans les lieux cachés ». Tout à la fois, l'ours qui étouffe, le lion des lieux cachés, voilà ce qu'il a été. Et il a éprouvé aussi ceci, que nous trouvons dans plusieurs passages de la parole. Et ceci, ce n'est pas son Dieu qu'il était pour lui, mais c'était les hommes. Dans le livre « Le petit prophète Sophonie » au chapitre 3, parlant des princes, il peut être dit qu'ils sont comme des lions rugissants. Et parlant des juges, au chapitre 3, verset 3, « Ces juges sont comme des loups du soir ». Et à nouveau, dans Jérémie 5 et au verset 6, il peut dire « Le lion de la forêt les frappera, un loup du soir les ravagera. » Et notre Seigneur a vu, un soir, ce dernier soir, les loups qui ravagent, sortant et venant pour le prendre. Toutes ces expressions si parlantes de ces bêtes sauvages, avec leur animosité, différente dans leurs attitudes, mais cherchant la proie, quand le soir est venu. Notre Seigneur, devant les hommes, a éprouvé cela. Satan, les hommes, et même son Dieu, qu'il suppliait de le délivrer de la gueule du lion, de la patte du chien, de tant de choses.
Psaume 22, verset 16, il y aurait encore les chiens, n'est-ce pas? Les chiens m'ont environné. Cela aussi. Les chiens sauvages, ils sont en grand nombre et ils ont attaqué cette brebis. Il est important que quand nous voyons le Seigneur Jésus comme la brebis, il n'a pas eu les caractères qui nous caractérisent, n'est-ce pas? Que nous avons tous perdu notre route. Eh bien, pas du tout ainsi pour le Seigneur. Il y a d'autres caractéristiques pour le Seigneur Jésus. En Ésaïe 53, nous lisons, il a été un agneau mené à la boucherie. Ce serait sa disposition d'être mené quelque part, là où on ne voudrait pas aller, n'est-ce pas? Et il y a aussi l'autre expression, il était comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Sa disposition de souffrir sans se plaindre. Eh bien, c'est ces caractères qui sont relevés quand nous pensons au Seigneur Jésus comme un agneau ou comme une brebis.
Et alors, Jean 1, verset 29, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un agneau peut ôter le péché du monde. Cela nous remet Exode chapitre 12, où il y avait un moment de grande crise, n'est-ce pas? Le jugement de Dieu qui allait s'effondrer sur ce pays d'Égypte, inclus les Israélites. Il fallait un moyen d'être sauvé. Quel moyen? Si on avait appelé tous les anciens des Israélites, qui sans doute toujours ont de bonnes idées, qu'est-ce qu'ils auraient proposé comme idée? Oh, il y aurait eu bien des idées différentes, n'est-ce pas? Mais je suis sûr qu'aucun de ces anciens d'Israël aurait pensé à suggérer que chaque famille doit simplement prendre un agneau. Et que par cet agneau qui serait tué et son sang serait mis à l'extérieur de la porte, ainsi, le jugement passerait. C'est un moyen tout à fait invraisemblable, on pourrait dire, pour faire passer un jugement. Mais oui, mais le Seigneur Jésus, il est devenu l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et maintenant, nous le savons comme l'agneau, comme immolé, chapitre 5 d'Apocalypse. Et là, nous le voyons avec ses cornes et sept yeux. Sept cornes, le nombre 7, qui est le nombre complet, n'est-ce pas? C'est la force complète. Les agneaux, comme nous avons dit, ils n'ont pas de cornes pour se défendre. Mais là, le Seigneur Jésus, dans la gloire, quoi qu'il ait vu comme agneau, il est plein de force, n'est-ce pas? Et alors, il a sept yeux, il voit tout, n'est-ce pas? C'est la sagesse absolue, en contraste de ce qui nous caractérise encore, qu'on est dépourvu de sens, comme fils d'Adam, n'est-ce pas? Que c'est beau de voir que chez le Seigneur Jésus, il n'y a naturellement pas eu ces manquements qui nous caractérisent comme des brebis. Et alors, il y a encore, chapitre 6 d'Apocalypse, la colère de l'agneau. C'est quelque chose de tout à fait anormal. Personne n'a peur d'un agneau. Mais l'agneau se montrera dans sa colère et ses jugements, après que les six sceaux auront été ouverts, les gens sauront que ce n'est pas tout simplement par hasard ou bien qu'ils ne doivent pas tout simplement croire les hommes de science qui prétendent c'est à cause de cela et c'est à cause de cela. Non, ils sauront que ces jugements sont à cause de la colère de l'agneau. Celui qu'ils ont rejeté, eh oui, celui-là sera plein de colère. Et que c'est impressionnant de voir le Seigneur Jésus comme agneau et comme brebis, en contraste avec ce que nous sommes naturellement.
Aussi de voir les toutes dernières étapes du berger. Et ensuite, cette transition, celui qui est berger jusqu'à un moment donné devient agneau. Nous avons cette expression du berger quand le Seigneur quitte donc, après la scène qui a été mangée avec ses disciples et se rend au Jardin des Oliviers, que ce soit l'évangile de Matthieu ou l'évangile de Marc, tous les deux nous donnent ce qui, dans ce moment-là, occupe la pensée du Seigneur. Allant au Jardin des Oliviers. Par exemple, dans Matthieu 26, alors après ce repas donc de la Pâque qui a été suivi de la scène, au verset 21, il chante une hymne au verset 30, « Sortir, s'en allèrent à la montagne des Oliviers, et Jésus leur dit, alors Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés en moi cette nuit, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Et on trouve exactement cette même expression dans l'évangile de Marc. Dans le prophète Zacharie, que nous avons lu ces jours-ci et d'où ce texte est tiré, l'expression était un peu différente. C'est « Épée, réveille-toi contre mon berger ». Et ici, le Seigneur, reprenant cette expression, ne s'arrête pas tellement à l'instrument qui va le frapper. Il l'a accepté. Il l'a accepté. Il va encore aller dans le jardin de Gethsémané pour accepter la volonté du Père, mais ici, ce qui occupe sa pensée, c'est la main qui tient l'épée. Je frapperai le berger. On a parlé, le lion, l'ours, le loup, tels sont les hommes, tels ils vont être vis-à-vis de lui. Mais au-dessus de toute cette scène, il y a quelqu'un qui tient l'épée, et c'est je, le je suis de l'éternité. Dieu lui-même, prenant l'épée, et il continue son chemin. Et alors c'est l'évangile de Luc qui nous montre la suite. Nous sommes arrivés dans le jardin de Gethsémané, Luc 22. Il sort, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, et quand il fut là, il leur dit, « Priez que vous n'entriez pas en tentation. » Il s'éloigna d'eux lui-même, environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il priait, disant, « Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Et il vient donc ensuite vers les disciples. Il est entré dans le jardin de Gethsémané. Dans Matthieu, dans Marc, nous voyons deux groupes de disciples, trois seulement le suivent. Dans l'évangile de Luc, il n'y a pas cette distinction entre les disciples. Il entre avec ses disciples dans le jardin de Gethsémané. Et il s'éloigne de ses disciples environ d'un jet de pierre. Et on peut dire que jusque-là, c'est encore le berger. Celui qui s'adresse à son Père dans cette prière ardente est celui qui garde encore ses brebis, pas plus loin qu'un jet de pierre. On peut dire que le berger tient encore la houlette dans sa main pour que les brebis ne s'éloignent pas encore. La prière est d'autant plus ardente à son Père qu'il lui dit, « Tu vois, mais ces brebis qui sont à une houlette de moi seulement, le jet d'une pierre de ma houlette, pas plus loin. » Vont-elles vraiment être dispersées? Que va-t-il en advenir s'il me faut aller tout seul boire la coupe? Elles sont là. Et cette pensée du jet de pierre qu'on ne trouve qu'une seule fois dans les évangiles, et dans ce moment précis, c'est encore l'insistance et les soins et l'ardente prière du berger pensant encore à ses brebis. Mais à partir du moment où il a accepté de prendre la coupe, que ta volonté soit faite. Alors tout change. Quand il dit « Levons-nous, partons d'ici », qu'est-ce qui se passe? Verset 54. « Ils se saisissant de lui, ils l'emmenèrent. Il est celui qui est désormais mené. Ce n'est plus le berger. C'est bien le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Mais c'est déjà la brebis, celui que l'on mène comme une brebis à la boucherie. Ils l'emmenèrent. Cette expression est typique de l'évangile de Luc. Il est mené. Après la résurrection, il va reprendre lui-même et conduire les siens. Mais là, et jusqu'à la croix, il est mené, comme une brebis que l'on mène à la boucherie.
Le Seigneur incite le prophète Jérémie à s'écrier ce verset que nous avons déjà lu, « N'est-ce rien pour vous tous qui passez par le chemin ? Contemplez, voyez s'il est une douleur comme ma douleur. » Et puis, durant cette rencontre, nous avons lu ce verset « Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. » Parlant des souffrances du Seigneur, parlant de son chemin d'abaissement, de renoncement, nous pouvons nous poser chacun la question individuellement. Est-ce que vraiment Christ vit en moi? Est-ce que vraiment je suis passé devant cette croix en disant « N'est-ce rien pour moi qui passe ?» contemplant et voyant une telle douleur. On peut se sentir appesanti dans le chemin, on peut se sentir découragé, incapable. « Oh, c'était bien à la retraite, mais me revoilà dans ma situation, me revoilà dans mon cadre familial. » où l'on est opposé, me revoilà dans mon travail professionnel et je peux difficilement témoigner. Et puis, il y a certaines choses qui ont été dites, je suis pas tellement d'accord, et puis on se décourage. N'est-ce rien pour vous qui passez? Passez par la croix et y repassez et considérez les souffrances du Seigneur à notre place. Ainsi, nous pourrons, et seulement par ce moyen-là, par la croix de Christ, nous pourrons enlever cet égoïsme qui est en nous et laisser Christ régner dans nos cœurs. Alors, nos vies seront des vies de service. Alors, nos vies seront des vies qui vivent pour le Seigneur, malgré et contre toutes les situations qui sont sur notre chemin. Si Christ est en nous, si Christ vit en nous, alors, comme notre frère l'a dit, la foi, l'amour et l'espérance vivante seront une réalité dans nos vies. et nous serons des témoins. En regardant quelques cas de serviteurs du Seigneur dans la parole, dans 1 Samuel chapitre 10 verset 1. Et Samuel prit une fiole d'huile et la versa sur la tête de Saül. Elle le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour prince sur son héritage? À Saül, qui va être un roi malheureusement qui tournera mal, Samuel lui fait cette promesse qu'il sera oint pour prince sur son héritage. Dieu rend son serviteur puissant. Moïse était non éloquent. Dans Exode au chapitre 3, au verset 11, nous pouvons tourner nos Bibles. Et Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour que j'aille vers le Pharaon et pour que je fasse sortir hors d'Égypte les fils d'Israël ?» Et puis plus tard, il dit, « Je ne suis pas éloquent. » Qu'est-ce qu'il dit au verset 13? Qu'est-ce que Dieu lui dit? « Parce que je serai avec toi. » Parce que je serai avec toi. Et puis Jean-Baptiste, dans Marc au chapitre 1er, au verset 17, il faut que lui croisse et que moi je diminue, verset 7, et il prêchait disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie des sandales. Et pourtant c'est Jean-Baptiste qui annonce l'arrivée du Sauveur. C'est lui qui est utilisé comme prophète tout-puissant. Paul aussi réalise sa petitesse, mais il peut dire que seule la grâce de Dieu lui permet d'être aussi actif et de pouvoir ainsi travailler pour Dieu, pour le Seigneur. La force n'est pas en nous, c'est cela que nous voulons dire. La force est en Dieu. Nous l'avons vu le premier soir, c'est lui qui ouvre le passage, c'est lui qui nous porte. C'est lui qui nous prend par la main, c'est lui qui nous donne toute la motivation pour agir par la puissance de sa gloire. Bien que nous ne soyons pas découragés, ces quelques paroles. Oui, on est invité à passer devant la croix de Christ, mais aussi on est invité à crucifier le moi afin que Christ vit en moi et qu'ainsi nous puissions, plein de force, avec la force que seul lui peut donner, le servir. Même dans les petites choses qu'il nous confie, elles peuvent devenir de grandes choses. Elles sont de grandes choses à ses yeux.
Notre Sauveur, dans son anéantissement, dans son abaissement, après l'avoir considéré mais sa vie pour ses brebis, les regards de la foi, comme on a pu le voir tout à l'heure, sont dirigés après la mort, après la victoire remportée, après son élévation dans la gloire. Et on est heureux à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos âmes, après avoir vu l'anéantissement, l'abaissement, l'humiliation de notre Sauveur, de le considérer dans toute sa grandeur. Il nous appartient de l'avoir maintenant, alors qu'il est là-haut dans le ciel, à la droite de Dieu. Et ces versets qui nous ont été lus tout à l'heure dans l'Épître aux Hébreux sont dignes d'arrêter notre attention. Nous sommes tous plus ou moins placés dans ce monde pour savoir que lorsque nous désirons avoir des contacts avec des hauts placés, des personnes d'un rang élevé qui ont des responsabilités, ce n'est pas toujours facile. Il y a des démarches et il y a quelquefois des oppositions qui font que nous ne pouvons pas avoir un rendez-vous avec tel haut placé avec lequel nous aimerions avoir un entretien. Eh bien, quelles sont les relations qui appartiennent désormais à la famille de la foi, à ceux qui ont mis leur confiance dans la personne du Seigneur et dans son œuvre, et qui peuvent le considérer comme, nous l'avons vu tout à l'heure, un grand souverain sacrificateur. Il a traversé les cieux. Quelle distance y a-t-il entre lui et nous? Eh bien, Hébreux 4 nous dit que nous pouvons nous approcher avec confiance du trône de la grâce afin de recevoir miséricorde et de trouver grâce pour avoir du secours au moment opportun. Nous pouvons nous approcher. Il n'y a pas de distance avec notre grand souverain sacrificateur. Et comme la brochure nous l'a rappelé, Hébreux 7, 25, ce grand souverain sacrificateur, celui qui a été élevé plus haut que les cieux, quelle position élevée? Y a-t-il une distance? Eh bien, quant à lui, il est toujours vivant, verset 25, pour intercéder pour nous. Et puis alors, dans le cadre de l'adoration, de la louange dont il est dit. Quelle distance y a-t-il? Toujours la même épître aux Hébreux, au chapitre 10. Ayant donc, frère, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints, par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qui nous a consacrés à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, verset 22, approchons-nous. Est-ce que nous nous tiendrons à distance, comme autrefois le peuple? Approchons-nous. Et, disons avec retenue, approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi. C'est merveilleux de voir, de considérer le privilège qu'est la part des chrétiens, de tous ceux qui aiment le Seigneur, et de réaliser cette proximité qui est la part de chacun de nous avec ce Seigneur haut élevé dans le ciel et qui est notre grand souverain sacrificateur. Quel personnage duquel nous pouvons nous approcher en toute liberté et en toute confiance.
Le Seigneur vient nous dire, mais si vous pouvez vous approcher de moi maintenant, sans conscience de péché, mais c'est que moi, le premier, je me suis approché de vous. C'est pourquoi le passage cité dans les Lamentations 1:12 doit prendre une signification particulière dans nos cœurs, quand bien même nous en faisons une application, bien sûr, vous êtes, et non Jérusalem, dans l'original. Mais n'y a-t-il pas là trois choses particulières? Contempler et voir. Contempler et voir. Y a-t-il pas là un appel à quelque cœur qui ne se serait jamais ouvert à la grâce de Dieu? Y aurait-il pas là un appel à quelqu'un qui ne s'est point arrêté devant la croix, qui n'a pas porté ce regard de foi, qui n'a pas écouté cette voix qui dit en Ésaïe « Tournez-vous vers moi ». N'y aurait-il pas là aussi un appel à quelqu'un qui a vu au cours des années les signes sur la table, quelqu'un qui a entendu ces mots « Faites ceci en mémoire de moi, contemplez, voyez, s'il est une douleur comme ma douleur ». Et n'y aurait-il pas un appel à nous qui prenons le morceau, qui buvons à la coupe? N'y aurait-il pas là un rappel de cette douleur, de cette mort accomplie à Jérusalem? Oui, chers amis, il s'est approché de nous, et maintenant, par sa grâce, nous pouvons nous approcher de lui. Comme nous le chantons dans une strophe de cantique, il n'y a plus de distance dans le numéro 156.
Dans la seconde épître aux Corinthiens qui nous frappe beaucoup, au chapitre 5, au verset 14, « Car l'amour du Christ nous étreint, en ce que nous avons jugé ceci, que si un est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. » Qu'est-ce qui se passe quand le berger d'un troupeau meurt? Nous avions lu cette expression, « Je frapperai le berger, les brebis seront dispersées. » Des brebis dispersées, elles sont vouées à la mort. La parole nous dit déjà que nous étions morts moralement dans nos fautes et dans nos péchés. Mais si le berger est mort, le troupeau disparaît. Si notre Seigneur était resté dans la mort, nous étions tous des brebis perdues, définitivement perdues. Il a été placé dans la poussière de la mort, nous l'avons vu. Il est allé jusque-là. Lui, on l'a rappelé, était venu du ciel. Le premier homme est tiré de la terre, poussière, il retourne à la poussière. Mais lui, venu du ciel, a été placé dans la poussière de la mort. Il n'a pas connu la corruption. Quand les disciples viennent, quand Marie de Magdala voit dans le sépulcre, les linges sont pliés à part. Il ne sente pas la corruption. Il n'a pas connu la corruption. Il n'a pas été poussière. Il a été placé, comme placé dans la poussière des autres, si on peut dire, assimilé aux autres, dans ce moment-là, mais pas devenu poussière. Et puis, est survenue, c'est cette expression que nous avons lue qui est si belle, de Hébreu 13. Or, le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis dans la puissance du sang de l'Alliance éternelle. Le moment venu, lui qui a frappé, lui quand il a été dit « mon Dieu, pourquoi ?» qui n'a pas répondu. Lui qui l'a placé dans la poussière de la mort, sans qu'il devint jamais poussière de la mort lui-même, est allé le chercher là, à ramener. Qui a-t-il ramené? Il était toujours pour lui, le grand pasteur des brebis. Mais il le ramenait sur quelle base? Et pourquoi pouvait-il le ramener? Il le ramenait d'entre les morts par la puissance du sang de l'Alliance éternelle. Il fallait la puissance du sang. Le sang avait été versé. Et la puissance de ce sang faisait que désormais, il pouvait le ramener des morts. Tu t'es penché vers moi. Tu as entendu mon cri. Tu m'as ramené du puits de la destruction. Il l'a ramené. Mais dans la puissance du sang de l'Alliance éternelle. Désormais, le sang ayant été versé, la vertu de ce sang permet à Dieu une alliance qui n'aura plus de fin. Tous ceux qui sont au bénéfice de la puissance, de la vertu de ce sang, font désormais, si l'on peut dire, une alliance éternelle avec Dieu. Ce sang a à ses yeux une telle valeur. Le berger et la victime ont à ses yeux une telle valeur que désormais, tous ceux qui deviennent les bergers de ce pasteur, tous ceux qui se placent sous l'aspersion de ce sang, tous ceux-là, désormais, peuvent devenir, et pour toujours, enfants du Dieu qui a ramené dans les morts le grand pasteur des brebis. D'un nouveau troupeau, il n'y avait qu'un troupeau au début des Hébreux, c'était le troupeau d'Israël. Il est mis de côté. À la fin, il y en a deux. Israël, repentant, et puis tous ceux qui n'appartenaient pas à Israël, qui agrandissent ce troupeau. Le troupeau s'est agrandi après la croix.
On a rappelé que dans les premiers chapitres des Actes, Pierre parle de Jésus ressuscité. C'est le grand témoignage des apôtres. Ils l'ont vu ressuscité. Mais plus loin dans les Actes, il nous est dit un certain Paul, prisonnier, qui parlait d'un Jésus mort qu'il affirmait être vivant. Ce sont deux ministères. Le ministère de la résurrection. Les disciples l'ont vu ressuscité. Ils ont mangé avec lui. Ils l'ont suivi, l'ont entendu. Paul ne l'a pas vu ressusciter, mais il a la vision du Christ vivant. C'est ce qui marque ses épîtres. La vision dans la gloire. Deux fois, semble-t-il, sur le chemin de Damas et dans le temple à Jérusalem, il m'arriva de le voir vivant.
Grand pasteur des brebis doit rester sur nos cœurs. Pourquoi est-il grand sacrificateur? Il est au-dessus des sacrificateurs qui sont là maintenant sur la terre. Parce qu'il a été homme, il peut entrer dans tout ce qui se passe dans les cœurs. Pourquoi est-il grand pasteur? Il est au-dessus des pasteurs. Il a la langue des savants, il sait par une parole soutenir celui qui est là dans le chemin. Il est miséricordieux, il est fidèle, il est à même de secourir le grand pasteur et ramener d'entre les morts, nous l'avons entendu.
On a rappelé que les disciples ont vu le berger ressuscité. Le Seigneur, déjà au moment où il se rendait à la mort, après cette citation de Zacharie, dans l'évangile de Marc, où il dit « Je frapperai le berger », il peut dire, au verset 28, « Mais après que je serai ressuscité, j'irai devant vous. » Si on peut dire, le berger dit à ses brebis, Je vais vous quitter pour un moment, mais de nouveau, j'irai devant vous, comme le berger qui de nouveau prend la tête de son troupeau. Et effectivement, pendant un moment, il est allé devant eux. Et puis cet évangile se termine. Le Seigneur donc, après leur avoir parlé, il est allé devant eux, puis il est allé avec eux, il leur a parlé, et après, verset 19 du chapitre 16, il fut élevé. Il fut élevé en haut dans le ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quel témoignage ils peuvent donner. Nous l'avons vu ressuscité. Il est venu devant nous. Il a marché devant nous. Il nous a parlé. Et nous l'avons vu élevé en haut dans le ciel. Et les communications se poursuivent avec celui qui est là-haut. Et le Saint-Esprit a été donné. La vision qu'ont eue les disciples est quelque chose de remarquable pour ensuite asseoir leur prédication.
De ceci le Père m'aime, c'est que moi je laisse ma vie. Ce que nous avons vu dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean.
Paragraphe le berger dans la gloire, ce qui est frappant dans l'Apocalypse, c'est qu'il n'est plus le berger. Sauf au chapitre 7, il frappait ce qui, nous dit-on, sont les saints sur la terre. Pas persuadés, mais enfin, ce que notre frère Kelly souligne en particulier. Mais enfin, il les frappait. Mais à part cela, il est toujours l'agneau. Dans la vision de Jean, élevé au ciel dans cette vision, monte ici, il voit dans les chapitres 2 et 3 que celui qui a des oreilles écoute, que l'Esprit dit aux assemblées, maintenant nous écoutons. Et dans le chapitre 4 suivant, Jean voit. Et alors, dans sa vision, c'est l'agneau. Tout du long jusqu'à la fin, c'est l'agneau. L'agneau au milieu du trône, l'agneau qui a été immolé, puis l'agneau qui est la lampe de la cité, le trône de Dieu et de l'agneau, à la fin de l'Apocalypse, c'est les noces de l'agneau. Pasteur, c'est en quelque sorte tous ses soins pour la terre, tout ce que nous avons vu dans nos premiers entretiens. Mais dans la gloire, c'est l'agneau. Celui qui est adoré, celui qui est aimé. Sur la terre, nous prenons la scène du Seigneur. Nous nous souvenons de sa mort, nous nous tournons vers lui comme le Seigneur. Mais dans le repas des noces, quand l'épouse, symboliquement bien sûr, se tourne vers lui, c'est pas le Seigneur. Ce n'est pas les noces du Seigneur, dans un sens, oui, mais il nous a dit les noces de l'agneau, c'est celui qui l'a racheté à grand prix.
Un agneau qui se tenait là, là. Nous avons suivi ces jours successivement, déjà ce qu'on trouve exprimé dans Matthieu concernant donc Gethsémané. Asseyez-vous ici jusqu'à ce que m'en étant allé, j'ai prié là. Il y a eu ce premier lieu désigné par cette petite expression, cet adverbe de lieu là, c'est Gethsémané. Et puis, dans l'évangile de Luc, chapitre 23, quand ils furent venus au lieu appelé lieu du crâne, ils le crucifièrent là, le lieu du calvaire, Golgotha, le lieu où l'agneau a été sacrifié. Et puis, dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, ils mirent donc Jésus là, à cause de la préparation des pains, sans le vin, car la fête était proche, le lieu de sa sépulture. Son corps a été placé là, mais Dieu ne l'a pas laissé là. Le grand pasteur des brebis est venu rechercher là, et le Dieu de paix est venu rechercher là le grand pasteur des brebis, et il lui a dit « Assieds-toi à ma droite ». Et maintenant, l'agneau glorifié, un agneau qui se tenait là. Mais pour les siens, et pour toujours, il reste un agneau qui se tient là, mais comme immolé. Le souvenir du passé, des souffrances, de la mort, ne s'efface pas. Le lieu change, mais ce qui est passé, les marques de ce qui est passé demeurent pour l'éternité. Et c'est là, et ce sera éternellement pour nous un sujet d'adoration.